RFI.
RFI 23h en temps universel, 7h du matin à Pékin et minuit ici à Paris. Et bonsoir à vous Antoine Galen, c'est à vous pour le journal.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous. À la une, ce coup de fil entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Le président américain a salué un très bon entretien au lendemain de son appel avec Vladimir Poutine. Volodymyr Zelensky affirme que l'Ukraine est prête à suspendre les frappes sur les infrastructures énergétiques et civiles. On y revient dès le début de ce journal. Une enquête complète pour faire la lumière sur le décès d'un employé de l'ONU à Gaza. C'est ce que demande le chef de l'ONU, Antonio Guterres. Depuis la reprise des frappes israéliennes, plus de 470 morts ont été comptabilisés à Gaza, d'après la défense civile palestinienne. Et puis le maire d'Istanbul, arrêté alors qu'il préparait sa candidature à l'élection présidentielle. Une répression qui a fait chuter la livre turque, vous l'entendrez. L'entretien a duré près de une heure. Ce mercredi, Donald Trump et Volodymyr Zelensky se sont eus au téléphone. Et ce, au lendemain de l'appel entre le président américain et son homologue russe. Les discussions sont sur la bonne voie pour un cessez-le-feu, se réjouit Donald Trump. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime avoir eu une discussion franche, très substantielle et positive. Alors que sait-on de cette conversation? Les précisions de Nicolas Falaise.
Des équipes ukrainiennes et américaines sont prêtes à se rencontrer dans les prochains jours en Arabie Saoudite, selon Volodymyr Zelensky, qui dit avoir eu une conversation positive et franche avec Donald Trump. Le président ukrainien indique qu'une première étape vers la fin de la guerre pourrait être de cesser les frappes sur les infrastructures énergétiques et civiles, et il assure que l'Ukraine est prête à mettre en œuvre cette première étape. Côté américain, les États-Unis affirment qu'ils vont aider l'Ukraine à se procurer plus de systèmes de défense anti-aérienne. Réponse positive donc à une demande du président ukrainien Zelensky. Autre annonce sur le volet militaire, le partage de renseignements pour la défense de l'Ukraine va continuer selon la porte-parole de la Maison-Blanche. À l'issue de l'échange téléphonique entre les présidents ukrainiens et américains, on apprend aussi que les États-Unis proposent de prendre possession des centrales nucléaires et électriques ukrainiennes afin de les protéger. Enfin, Donald Trump a l'intention de travailler au rapatriement des enfants ukrainiens enlevé par la Russie pendant le conflit.
Et Volodymyr Zelensky dit n'avoir subi aucune pression de Donald Trump pour des concessions durant leur appel. Il affirme avoir reçu plusieurs avions F-16 supplémentaires et ajoute qu'il se rendra en France la semaine prochaine pour rencontrer Emmanuel Macron. Sur le front, l'Ukraine a compté pendant la nuit de mardi à mercredi 6 missiles et 145 drones de combat russes. De son côté, Moscou accuse Kiev d'avoir attaqué un dépôt pétrolier de la région de Krasnodar. En Serbie, les autorités nient avoir utilisé un canon à son contre des manifestants, un dispositif militaire utilisé pour disperser les foules. Et samedi dernier, une gigantesque manifestation anticorruption avait lieu à Belgrade. Des milliers de manifestants s'étaient rassemblés en hommage aux 15 victimes de la gare de Novi Sad en novembre dernier. Plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent un mouvement de panique, une foule qui se disperse soudainement et sans raison apparente. Plus de 470 morts à Gaza depuis la reprise des frappes israéliennes. C'est ce qu'indique la défense civile palestinienne. L'armée israélienne annonce avoir lancé des opérations terrestres ciblées dans le centre et le sud de l'enclave. Pendant ce temps, le ministère de la Santé fait état d'une frappe contre un bâtiment qui abritait des employés de l'ONU. Il y a au moins un mort à ce stade et 5 blessés. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, se dit profondément attristé et choqué par cette mort. Il réclame une enquête complète. Notre correspondante Amira Souilem à Ramallah a réussi à joindre un témoin des violences à Gaza.
Iyad, travailleur humanitaire, faisait une distribution alimentaire à proximité de l'hôpital El-Aqsa de Deir el-Balah quand un mouvement de panique a envahi le quartier. C'est dans cet établissement hospitalier que l'équipe de l'ONU a été transférée. Aussitôt, il ressent le besoin de témoigner.
On a entendu le son de l'explosion quand elle a eu lieu. C'est la panique à Deir el-Balah. Les scènes que l'on voit sont vraiment dures à soutenir. Il y a un corps, un martyr de l'ONU et 5 blessés graves. Un d'eux est transféré à l'hôpital européen de Ran Younes dans le sud afin d'y être opéré en urgence. Il risque d'être amputé de la jambe.
Alors que les regards, dont ceux de l'ONU, semblent se tourner vers Israël, Iyad s'inquiète. Si des équipes étrangères censées être un peu plus épargnées que les Gazaouis sont ciblées, cela augure mal de la suite pour eux, selon lui.
C'est une catastrophe ici, toujours. La situation va empirer si les frappes israéliennes continuent. N'oublions pas que cela fait plus de 17 jours que l'aide humanitaire et la nourriture ne peuvent plus entrer dans Gaza.
L'armée israélienne a aussitôt démenti avoir frappé le bâtiment dans lequel les employés de l'ONU se trouvaient. Amira Sulem, Ramallah. RFI.
Et depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël, déclenchée le 7 octobre 2023, au moins 280 employés de l'ONU ont été tués à Gaza. Nouvelle frappe américaine sur des fiefs des rebelles houthis au Yémen. Les tirs ont visé la capitale Sanaa et le nord du pays. Les houthis seront complètement anéantis. La menace de Donald Trump. Le président américain demande également à l'Iran l'arrêt immédiat de son soutien aux rebelles yéménites. Pendant ce temps, les rebelles houthis ont revendiqué une quatrième attaque en 72 heures contre un porte-avions américain en mer Rouge. L'opposant numéro 1 de Recep Tayyip Erdogan, arrêté. Ekrem Imamoglu est poursuivi pour corruption et soutien à une organisation terroriste. L'opposition dénonce un coup d'État. Le maire d'Istanbul devait être investi par son parti, le CHP, pour la prochaine élection présidentielle. Ce mardi, son diplôme nécessaire pour se présenter avait été annulé par l'université d'Istanbul. Erdogan, dictateur, Imamoglu, tu n'es pas seul. Les mots de plusieurs centaines de manifestants devant le siège de la police. Une répression politique qui a immédiatement fait chuter la livre turque. Elle a atteint un plus bas historique. Les échanges boursiers ont même dû être suspendus temporairement. Deniz Unal est spécialiste de la Turquie et économiste au CEPII, le Centre d'études prospectives et d'information internationale.
Il est fort possible que Istanbul soit géré par un administrateur, comme dans d'autres villes où ils ont démis les maires élus. L'idée, c'est de aussi d'accaparer Istanbul, faire taire toute l'opposition valable qui peut faire face à Erdogan, et aller dans un régime autoritaire où on voit que ce régime autoritaire ne gère pas correctement l'économie. Déjà, la Banque centrale a des pressions pour baisser ses taux d'intérêt et les a baissés 3 fois de suite alors que ça ne justifiait pas. On est toujours à 40% de l'inflation en Turquie et ça, c'est seulement des chiffres officiels. Et de surcroît, la bourse déjà a éprouvé des difficultés quand le patronat avait été menacé ainsi, le patronat laïque. Et maintenant, évidemment, c'est pire. Ce n'est plus du tout un système capitaliste libéral qui va exister en Turquie, si ça continue comme ça.
En France, la perpétuité requise pour Mehdi Nemmouche ce mercredi par la cour d'assises de Paris au procès des geôliers du groupe État islamique. Une peine assortie d'une période de sûreté maximale de 22 ans. L'auteur de la tuerie du musée juif de Bruxelles en 2014 est poursuivi par 4 co-accusés pour son implication dans la séquestration et torture d'otages occidentaux en Syrie entre 2013 et 2014. Le comité international olympique connaîtra son nouveau président ce mercredi. C'est à Costa Navarino, dans le sud de la Grèce, que les 106 membres de l'institution présents sur place vont élire le successeur de Thomas Bach en poste depuis 2013. 7 candidats sont en lice. Le Britannique Sebastian Coe, président de la World Athletics et ancien patron des Jeux de Londres en 2012, l'Espagnol Juan Antonio Samaranch ou encore la Zimbabwéenne Kirst Coventry. Beaucoup de votants hésitent encore. C'est le cas de Martin Fourcade, le sextuple champion olympique de biathlon au CIO depuis 2022. Ne peut pas voter tant que le Français David Lapartien est en course. Mais si ça devait se produire, le choix serait cornélien.
On a des candidats qui sont très différents, à la fois de par leur passé et puis aussi de par leur style. Ça mélange plein de choses entre un leadership qui est quand même nécessaire pour gérer une organisation comme le CIO et pour représenter le mouvement sportif dans son ensemble. Et puis d'autres symboles aussi qui sont importants à mes yeux. Quelle image du mouvement olympique, comment on veut projeter le mouvement olympique vers demain. Donc en fait, c'est une combinaison de plein de facteurs. Il y en a certains qui cochent plus de facteurs que d'autres. Mais le candidat idéal, finalement, c'est un petit peu un mélange de tous ces candidats-là aussi. Donc c'est un choix qui n'est pas facile pour être honnête. internet, je ne l'ai pas encore fait. Et puis surtout pour l'instant je ne suis pas sûr de voter parce qu'il y a deux configurations dans lesquelles je ne voterai pas. La première c'est que le membre français est élu président du CIO. La seconde c'est que la majorité soit atteinte avant que le membre français ne soit sorti. Et donc dans ces deux configurations-là je ne voterai pas et donc je n'aurai pas eu à faire de promesses inutiles à tout le monde.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.